France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Bonjour à toutes et tous, très belle année à vous et à ceux qui vous sont chers. Surtout n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, changer la loi Claeys-Leonetti de 2016 sur la fin de vie, c'est aussi un souhait pour de très nombreux Français. Le 10 mars dernier, le président de la République dévoilait les contours d'un projet de loi sur une aide à mourir qui devait permettre à certains patients, je le cite, selon des conditions strictes, de recevoir une substance létale. À l'Assemblée nationale le 27 avril, les débats s'ouvraient avec une commission spéciale présidée par l'ex-ministre de la Santé Agnès Firmin-Lebaudeau, Olivier Falorni en étant le rapporteur général, et le 17 mai, le texte était approuvé à main levée par cette commission. L'examen du texte en première lecture commençait alors le 27 mai pour s'interrompre le 9 juin avec la dissolution de l'Assemblée. Et depuis, le 24 septembre, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, indiquait souhaiter que le texte soit réexaminé avant la fin 2024 et de son côté, Olivier Falorni déposait une proposition reprenant intégralement et scrupuleusement le texte tel qu'il était au moment de la dissolution, une proposition signée par 220 députés. Aujourd'hui, où en est-on? Quand la loi devrait-elle être débattue? Quel texte sera présenté? Pourquoi tant de discussions autour de cette loi? Que défendent les pour? Que contestent les contre? Nous allons en parler durant deux numéros de Carnet de santé. En effet, le principe de l'émission étant de n'avoir qu'un invité, je ne pouvais par honnêteté choisir un défenseur ou un opposant à cette nouvelle loi, ce d'autant que je me suis engagée personnellement et publiquement à faire changer cette loi. Or, mon souhait est de vous donner à vous, auditeurs, les éléments vous permettant de vous faire votre propre opinion et non de vous imposer la mienne. Dans ce but, je reçois aujourd'hui Olivier Falorni. La semaine prochaine, vous entendrez les arguments du professeur Régis Aubry, médecin en soins palliatifs, membre du Comité consultatif national d'éthique, co-initiateur de la stratégie décennale qui a inspiré le chapitre du projet de loi consacré à ces soins. Olivier Falorni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député apparenté au groupe Les Démocrates de Charente-Maritime, rapporteur général du projet de loi sur la fin de vie lors de la précédente législature. Alors, je l'ai dit, vous êtes engagé pour que cette loi évolue. De quand date cet engagement et qu'est-ce qui l'a motivé?
D'abord, contrairement à ce que peuvent penser certains, le fruit de mon engagement, c'est pas une expérience personnelle ou familiale douloureuse. Malheureusement, comme dans beaucoup de familles, j'ai été amené ensuite à être confronté à des fins de vie particulièrement difficiles. Mais le début de mon engagement, en fait, c'est une rencontre. Et c'est un engagement, j'allais dire, qui repose sur une réflexion philosophique, j'allais dire républicaine. En fait, j'avais une vingtaine d'années, j'ai rencontré un sénateur, Henri Caillavé, qui avait été rapporteur du texte sur l'IVG en 1974 au Sénat, et qui avait déposé en 1978 une proposition de loi déjà qui parlait de la fin de vie. Et lors d'une conférence qu'il avait organisée avec Michel Crépeau, le député maire de La Rochelle de l'époque, il avait expliqué comme quoi le sujet de la fin de vie était une question, certes relative à la santé, mais aussi une question éminemment républicaine, puisque les valeurs et principes de la République étaient interpellés à travers ce texte, et que, estimait-il, à raison, que la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité étaient, à l'époque, et encore aujourd'hui, quelque part, remis en cause l'absence d'une loi suffisante. Donc, en fait, c'est le fruit de cette rencontre avec Henri Caillavé. J'avais 20 ans. Question de la vie, de la mort, m'était encore, je dois le dire, assez étrangère. Mais vraiment, c'est par cette réflexion philosophique, républicaine, que je me suis intéressé au sujet et je me suis engagé fortement, évidemment, dessus.
Alors, vous l'avez dit, vous aviez 20 ans, même si vous êtes encore très jeune, ça fait quand même quelques années, oui. Donc que l'on discute de ce sujet. Des pays voisins, durant ce temps, ont adopté des lois sur l'aide active à mourir. La Belgique, il y a maintenant plus de 20 ans, plus récemment le Portugal, l'Espagne. Pourquoi nous, on a tellement de mal à aborder ce sujet et même à parler fin de vie, à parler mort?
Alors, j'y vois peut-être plusieurs raisons. D'abord, c'est pas facile de parler de fin de vie, pas facile de parler de la mort. Et je vais vous donner une anecdote. Ça fait des années que des présidents de la République successifs, des premiers ministres successifs, des ministres successifs me disent « c'est bizarre, moi on m'en parle jamais quand je vais sur le terrain ». Alors à chaque fois, je leur réponds « mais Vous imaginez un citoyen qui rencontre un président de la République ou un premier ministre et qui commence par lui parler de la vie et de la mort. Par contre, à chaque fois, je leur dis, posez-vous la question aux Français. Et le président de la République actuelle, quelque part, a suivi un petit peu ce que je lui avais dit de faire. Et effectivement, il m'avait confirmé que quand on aborde le sujet, eh bien, les Français, non seulement ont un point de vue, mais considèrent que c'est extrêmement important. Par ailleurs, je pense pas que les Français soient profondément conservateurs. Alors, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'Europe, finalement, on va finir par être entouré
de pays
à nos frontières qui auront tous légiféré. On voit même que la Grande-Bretagne, maintenant, est engagée dans ce processus. Donc je ne pense pas que la France soit un pays conservateur. En tout cas, les Français ne sont pas conservateurs sur les questions de société. J'allais dire, malheureusement, je crains que ce soit la représentation nationale qui soit en décalage avec le pays. Il l'a été en décalage, cet hémicycle, au moment de la loi Veil. Il l'a été aussi au moment du mariage pour tous. Bon, ces deux textes ont quand même pu être votés, mais j'ai parfois le sentiment qu'on est toujours à la traîne par rapport à l'opinion publique.
Alors justement, parlons de ce qui a été fait depuis le texte d'Henri Caillavet. 2005, la loi Leonetti qui dispose que les actes médicaux, je cite, ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Et 2016, la loi Claeys-Leonetti qui pose le principe selon lequel toute personne a droit à une fin digne et apaisée et qui autorise l'administration à la demande de patients et jusqu'au décès de ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, si le patient est atteint d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Pour vous, pour une majorité de Français, ça ne suffit pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Qui échappe du coup à cette loi qui ne peut pas en bénéficier ?
Les deux lois que vous avez évoquées, la loi Leonetti et la loi Claeys-Leonetti, ont permis deux avancées majeures, deux droits. Alors aujourd'hui, ça semble évident, le droit de ne pas souffrir, le droit de ne pas subir. Alors, je veux dire, pourtant, c'était pas acquis. Et ces deux textes ont permis ces deux droits-là. Mais aujourd'hui, il s'agit de rendre concrets ces droits et de faire en sorte que véritablement ils puissent s'exercer, en tout cas que les citoyens puissent s'en saisir. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un manque en termes d'accès aux soins palliatifs. Mais dans tous les cas, malheureusement, parce que la médecine humaine atteint parfois ses limites, les soins palliatifs ne peuvent pas tout. Et il y a un certain nombre de souffrances réfractaires, des souffrances que rien ne peut soulager. Et c'est pour ça que je défends avec beaucoup de collègues l'idée qu'il faut avancer sur l'accompagnement de la fin de vie sur deux pieds. Le premier, c'est d'apporter cette réponse primordiale que sont les soins palliatifs, qui répond à la majorité des cas, mais aussi un ultime recours dans certaines circonstances, qui est l'aide à mourir.
Alors, clairement, les Français veulent que cette loi bouge. Le futur président a fait une promesse de campagne et des organismes se sont saisis de cette question. Il y a un avis très écouté et très important du 13 septembre 2022 du Comité consultatif national d'éthique qui ouvre la voie à une aide active à mourir strictement encadrée. Et puis, il y a eu la Convention citoyenne et ça, on en parle tout de suite. Carnet de santé consacré à la loi sur la fin de vie, un texte présenté à l'Assemblée nationale. Le débat avait débuté avant d'être interrompu par la dissolution du 9 juin dernier. On en parle avec Olivier Falorni, député apparenté au groupe Les Démocrates de Charente-Maritime, rapporteur de cette loi. J'évoquais donc qu'il y a eu la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a rassemblé 184 citoyens tirés au sort qui avaient pour mission de répondre à la question posée par la Première ministre. Je cite « Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduit. Le 2 avril 2023, cette convention s'est majoritairement prononcée pour une évolution du droit vers une aide active à mourir. Il faut dire que ça a été un modèle de démocratie, cette convention, dont on est obligé de tenir compte.
Ah, je pense que oui. Je le dis d'autant plus que moi, j'étais assez sceptique à l'époque. Ce que je craignais surtout, c'est que cette convention serve encore à justifier la procrastination et à reporter les décisions aux calendes grecques. Force est de constater que le travail qui a été mené par le CESE, par le comité de pilotage, a été remarquable. Des intervenants de toute sensibilité, de toute opinion se sont exprimés. Et les citoyens ont rendu un avis extrêmement étayé, précis, avec une prise de position très claire, hein, parce que je crois que c'est 76% de mémoire des citoyens de la Convention citoyenne qui ont exprimé leur souhait de voir l'aide active à mourir légalisée. Oui, il faut en tenir compte. Vous savez, au 1er janvier, là, on a beaucoup entendu le président de la République évoquer soit la question du référendum, soit la question de la Convention citoyenne. Moi, je le dis clairement, hein, si la Convention citoyenne sur la fin de vie n'aboutit pas à une loi, c'est pas la peine d'envisager d'autres conventions citoyennes. Hein. Le travail qui a été fait a été remarquable. L'avis a été extrêmement clair. Donc maintenant, il faut que ce qu'on appelle la démocratie participative citoyenne se traduise dans l'hémicycle par le vote d'une loi. Et pour avoir eu contact avec de nombreux conventionnels, ils commencent à perdre patience.
Étape suivante, le président présente le 10 mars 2024 dans une interview croisée à La Croix et à Libération les contours de ce projet de loi. Il précise bien que cette loi ne va créer, à proprement parler, ni un droit nouveau, ni une liberté, ce que demandent vraiment tous ceux qui veulent que cette loi évolue. Pourquoi cette frilosité sur ces termes ?
Je ne sais pas. Je sais que lui parle d'impossible. Bon, la sémantique est importante, hein, notamment sur la question de la fin de vie. Voilà, moi je considère que c'est une liberté, que c'est un droit, que c'est impossible. À la limite, impossible en deux mots, hein, évidemment. Parce que je considère, et beaucoup ont considéré que pendant longtemps, il était impossible de faire voter une loi en France. On voit bien que les obstacles se sont multipliés. Malgré tout, je ne lâcherai rien. Mais pour le coup, oui, je considère que c'est un droit nouveau. Utilisons le mot. Enfin, moi, en tout cas, il ne me gêne pas.
Autre question de sémantique, arrive enfin le texte présenté le 10 avril 2024 en Conseil des ministres, articulé autour de trois grands axes, l'aide à mourir à proprement parler, les soins palliatifs et l'accompagnement, les droits des patients et de leurs aidants. Alors, le développement des soins palliatifs, personne ne le conteste, c'est indispensable. Ce qui est dans le texte de loi devrait permettre effectivement plus de lits, plus de soignants, plus de postes, donc c'est absolument essentiel, donc plus de réponses aux souhaits des Français. Mais concernant l'aide à mourir, très curieusement, ni le mot euthanasie, ni le suicide assisté ne sont mentionnés.
Oui, et je le comprends. Parce que vous savez, il y a des mots qui sont souillés par l'histoire. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est que les opposants à l'aide active à mourir utilisent en permanence le mot d'euthanasie. Pourquoi ? Parce que ce mot a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi. C'est un mot souillé par l'histoire. Vous savez, il y a des mots comme ça. Vous imaginez, pendant une campagne européenne, dans un programme, parler de collaboration franco-allemande ? Non, on parle de coopération franco-allemande. Parce qu'il y a des mots qui sont souillés par l'histoire. Et puis, suicide assisté. Alors là, en revanche, le mot suicide crée une confusion. Parce qu'évidemment, en tant que parlementaire, en tant que citoyen, on est tous préoccupés par la montée du suicide, notamment chez les jeunes, et la prévention du suicide, évidemment, est une priorité. Donc, créer cette confusion entre le suicide assisté, qui relève vraiment d'un droit pour des personnes qui vont mourir, et la prévention du suicide, créer cette confusion serait désastreuse. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est plus adapté de parler d'aide à mourir, c'est parfaitement clair, et je pense que c'est l'expression qui doit être utilisée.
Parmi les craintes des opposants à une évolution de la loi, il y a le risque de dérive, d'explosion du nombre de demandes. La Belgique, je le disais, est un des premiers pays à avoir dépénalisé, il y a maintenant plus de 20 ans. Est-ce qu'on constate dans ce pays, effectivement, une explosion des morts par euthanasie ?
Ben non, pas du tout. Pas du tout. Cette loi, elle a plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'on constate ? Les derniers chiffres consolidés, ce sont ceux de l'année 2023. Il y a eu 3,1% des décès qui l'ont été par une aide active à mourir. 3,1% au bout de 21 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une explosion des cas. Alors évidemment, là aussi, les opposants disent « Ah oui, mais ça augmente ». Ben, quand vous avez une population qui augmente, quand en plus vous avez une population qui vieillit, et que par définition, ce sont les personnes les plus âgées qui sont les plus susceptibles d'être atteints de pathologies graves et incurables. Eh bien oui, vous avez une augmentation mécanique du nombre de cas. Mais en pourcentage, je le redis, c'est 3,1% en 2023, 20 ans après le vote de la loi. Donc parler d'explosion de cas, c'est faux. Et puis, je vais vous dire les dérives. Là où il y a le plus de dérives sur la fin de vie, c'est pas en Belgique, c'est pas au Luxembourg, c'est en France. Parce que pour moi, la principale dérive, ce sont les euthanasies clandestines dont on ne sait rien.
Autre crainte, et qui avait été défendue notamment par certaines personnes grandement handicapées, c'est que les plus fragiles soient menacés dans leur existence, qu'on puisse les pousser éventuellement à demander ce geste. Est-ce que c'est une crainte que vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on peut prendre comme précaution pour éviter cela?
Alors d'abord, moi je comprends toutes les craintes. Parce que, vous savez, moi je suis engagé dans ce débat-là avec des convictions, vous l'avez compris, mais sans certitude. Et je crois qu'il faut vraiment entendre tous les points de vue, toutes les inquiétudes, et celle-ci en fait partie. Je le redis, le processus d'accès à l'aide active à mourir est un processus extrêmement encadré. Extrêmement encadré. D'abord, il repose sur des critères médicaux définis par un collège médical, puisque 3 soignants seront sollicités pour émettre un avis.
Dont un non-médecin, ce qui est très important.
Absolument.
Parce qu'ils connaissent en général très très bien le patient.
Tout à fait. Ensuite, il est nécessaire d'avoir l'aptitude d'exercer un avis libre et éclairé, et de façon réitérée. Et puis évidemment, la présence de souffrances physiques ou psychiques insupportables et réfractaires au traitement. Donc il y a un cadre extrêmement rigoureux, des conditions définies par la loi qui, je le pense, permettent de ne pas craindre ce type de dérive, puisque je le redis, c'est un collège médical qui rendra son avis. Je crois qu'on ne peut pas soupçonner des soignants de ne pas respecter ces principes élémentaires.
Alors le texte qui avait été présenté en Conseil des ministres a évolué lors des débats de la commission spéciale créée à la présentation du texte à l'Assemblée nationale. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos.
Premier volet de ce carnet de santé consacré au projet de loi sur la fin de vie, volet où je reçois un défenseur de l'évolution du texte, Olivier Falorni, rapporteur du projet, député apparenté au groupe Les Démocrates de Charente-Maritime. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin avec à la réalisation Thomas Jost et à la technique Sacha Krin. L'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale a débuté le 27 avril 2024 et vu l'importance et la sensibilité du texte, je le disais, une commission spéciale a été mise en place, présidée par Agnès Firmin-Lebaudeau. Vous en étiez le rapporteur général. Au terme d'une intense semaine de débat, le texte a été approuvé à main levée par cette commission spéciale. Les modifications essentielles qui font que pour vous ce texte est aujourd'hui applicable, c'était quoi?
Alors j'évoquais les conditions d'accès à l'aide à mourir et c'est là-dessus peut-être que le texte a le plus évolué, de façon assez relative en fait. Là aussi, on nous a dit « vous avez dénaturé le texte », c'est complètement faux. Simplement, on a voulu le rendre effectif, parce qu'il n'y a rien de pire que de voter une loi, un droit, et qui ne soit pas accessible, qui ne soit pas effectif. Ce serait la pire des choses. Et dans les conditions du texte initial, il y avait la notion de pronostic vital à moyen terme. Et les auditions, que ce soit d'ailleurs de la part d'opposants ou de personnes favorables, de tous les soignants, nous ont dit « mais comment voulez-vous faire d'un médecin un devin ?» Comment voulez-vous demander à un médecin de dire ce monsieur, cette dame, en a pour 6 mois, en a pour 12 mois, en a pour 24 mois?
Aucun médecin ne peut le dire.
Aucun. Donc, nous avons souhaité remplacer cette notion du moyen terme, d'ailleurs non définie par la Haute Autorité de Santé, par une notion, pour le coup, qui, elle, apparaît et dans la loi Leonetti de 2005 et dans la loi Claeys-Leonetti de 2016, c'est-à-dire la notion de phase avancée ou terminale. C'était d'ailleurs la définition exacte du ministère de la Santé de l'aide active à mourir quelques mois avant. Donc en fait, c'est la principale modification qui a été apportée, qui ne restreint pas, qui n'ouvre pas, mais simplement qui vise à rendre le droit effectif demain.
Je disais, vous avez déposé une proposition reprenant intégralement et scrupuleusement le texte tel qu'il était au moment de la dissolution. Donc je l'ai dit, ça a été signé par 220 députés. Est-ce que vous avez aujourd'hui bon espoir que l'on reparte bien de ce texte et pas du texte initial?
Alors je pense que la configuration du gouvernement actuel m'amène à douter qu'on reparte d'un projet de loi gouvernemental, puisque certains ministres ont exprimé une forte opposition. En revanche, je pense qu'une proposition de loi, c'était d'ailleurs le cas des deux lois qu'on aborde depuis le début de l'émission, hein, Leonetti et Claes Leonetti, c'était deux propositions de loi, c'est-à-dire des textes qui viennent des députés, qui sont déposés par les députés. Quand vous avez un texte de loi qui est co-signé par autant de députés, issus de 9 groupes parlementaires différents, de LFI jusqu'à LR, dont on sait même qu'il y a des députés du RN qui le voteront, ce texte. On ne peut pas être sourd à tout ça. On ne peut pas être sourd à toutes les enquêtes d'opinion qui, de sondage en sondage, disent que les Français non seulement sont favorables, mais qu'ils attendent cette loi.
Et à ce qu'a dit la Convention citoyenne.
Et en plus, ce texte n'a pas vocation à être la victime collatérale permanente du chaos parlementaire. Parce que je rappelle que cette proposition de loi, elle vise non pas à ouvrir le débat, puisque le débat, il a été ouvert.
Bien sûr.
Et qu'il a été brutalement interrompu par la dissolution. Et que la censure aujourd'hui fait planer un doute sur une inscription qui était actée au 3 février. Voilà. Donc,
on est toujours sur le 3 février?
Pour l'instant, oui. J'espère que ça ne sera pas modifié. En tout cas, moi, je considère vraiment qu'on ne peut pas accepter de reporter en permanence cette grande réforme de société, la grande réforme de société que les Français attendent.
On n'est pas tout à fait sur la ligne de la Belgique en France, pour différentes raisons, et notamment sur la raison de l'implication des médecins. Or, il y a de nombreux patients qui ne souhaitent pas faire ce geste eux-mêmes, même s'ils en sont capables, et on se demande pourquoi refuser à un patient qui le souhaite, qu'un médecin qui l'accepte, puisse faire ce que beaucoup de médecins considèrent comme un ultime geste de soin. Pourquoi refuser ça alors que dans d'autres pays, effectivement, c'est accepté?
Alors c'est vrai que le gouvernement, dans son texte initial, était parti du principe du suicide assisté, oui, pour résumer, c'est-à-dire c'est le malade qui ingère lui-même le produit. Vous savez, j'ai beaucoup bataillé à l'époque parce que je craignais que ce soit la seule possibilité offerte, un peu sur le modèle anglo-saxon et notamment américain de l'Oregon. Ça aurait été une rupture d'égalité, mais inacceptable.
En gros, cette loi, elle est quand même faite, notamment l'évolution de la loi, pour les patients qui ne peuvent justement plus faire ce geste.
Absolument, absolument. Donc là, on parlait de droit effectif. On aurait là aussi créé un droit ineffectif pour un certain nombre de malades qui ne sont plus en mesure de faire le geste eux-mêmes. Donc ça a été vraiment une bataille pour pouvoir permettre le fait qu'un médecin ou un infirmier puisse faire le geste. Dans la version initiale, à ma grande surprise, je dois le dire, il était aussi possible de faire appel à une personne volontaire sollicitée par le malade pour faire le geste. Cela a été retiré, puisque
la personne volontaire. Hein.
Voilà, la personne volontaire n'apparaît plus dans la définition aujourd'hui de l'aide active à mourir, parce que comme vous l'avez dit, j'ai repris scrupuleusement le texte tel qu'il était au moment de la dissolution. Et donc, cette notion de personne volontaire a disparu, et seuls peuvent faire le geste, donc le malade lui-même, et s'il ne le peut pas, un médecin ou un infirmier.
Alors, on entend souvent dire qu'en France, les médecins sont globalement tous contre l'évolution de la loi. Il y a une enquête réalisée en avril 2023 par le Conseil national de l'Ordre des médecins qui montre que si 66% des médecins sont opposés à l'euthanasie, 11% ne se prononcent pas et 23% y sont favorables. Si on reprend vos chiffres de la Belgique où 3,1% des patients meurent par euthanasie, 23% des médecins favorables, c'est beaucoup.
Mais bien sûr, j'ai vu une enquête qui a été menée par la FEHAP, une des trois grandes fédérations hospitalières de France, qui indiquait que 33% des médecins y étaient favorables, 67% des soignants. Quand on regarde l'avis de l'Académie de médecine, on ne peut pas accuser d'être pro-aide active à mourir. Ils ont un avis très ouvert là-dessus. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins, lors de son audition pour l'étude du texte de loi, lui aussi avait ouvert la porte à la possibilité d'une aide active à mourir dans certaines conditions. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aussi fermées. Et effectivement, il y aura une clause de conscience dans le texte, c'est évident, comme pour la loi Veil. Mais vu le nombre de médecins qui, dès aujourd'hui, sont favorables à cette aide active à mourir, je pense que on aurait la possibilité de faire en sorte que les demandes de malades en fin de vie qui répondraient aux critères puissent être acceptées et que les aides à mourir puissent être pratiquées.
Une dernière question délicate. Aujourd'hui, cette loi exclut les mineurs, ce qui provoque assez peu de débats dans notre pays, mais exclut également les patients porteurs de maladies type Alzheimer, et ce même si des directives anticipées avaient été rédigées évoquant cette question et réclamant le non-acharnement thérapeutique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a un risque à ce que ces malades, du coup, anticipent leur fin de vie pour pouvoir bénéficier justement d'une aide active à mourir tant qu'ils ont cet avis libre et éclairé que l'on demande dans le texte?
Oui, c'est une vraie question et c'est une question qui nous a beaucoup mobilisés durant le débat en commission spéciale et aussi dans l'hémicycle. Vous savez, le postulat de ce texte, c'est être apte à émettre un avis libre et éclairé. Et donc, que le malade puisse exprimer sa volonté jusqu'au dernier instant. Et donc, la question du discernement, notamment pour les malades d'Alzheimer, se pose. Et il y a eu un débat sur notamment la question des directives anticipées. Est-il possible, dans ces directives anticipées, de dire, eh ben voilà, si j'atteins ce stade-là de la maladie, je demande à pouvoir bénéficier d'une aide à mourir. La question, effectivement, sur des maladies neurocognitives se pose. Elle n'a pas été définitivement tranchée. Elle n'apparaît pas dans le texte qui, aujourd'hui, garde le principe de la réitération jusqu'au dernier instant. Je pense que ça fera partie peut-être du point le plus débattu demain lorsque, je l'espère, et j'en suis même sûr, le texte reviendra à l'Assemblée nationale.
Vous en êtes sûr? C'est-à-dire que vous êtes optimiste?
Oh, j'ai l'optimisme de la volonté, comme on dit. Vous savez, ça fait des années et des années que ce texte subit beaucoup d'obstacles, même les plus inattendus avec la dissolution. Je suis déterminé parce que je crois vraiment que c'est une grande loi de la République que nous devons voter.
Et qui respecterait effectivement cette convention citoyenne, oui, tellement importante et tellement un modèle de démocratie que nous avons eu et dont on peut être fier.
Absolument.
Merci infiniment Olivier Falorni pour toutes ces explications, toutes ces précisions. Et évidemment, on espère que début février ce texte va revenir. Samedi prochain, donc, nous continuons sur ce sujet de l'évolution sur la fin de vie. Je recevrai donc le professeur Régis Aubry, qui est membre du Comité consultatif national d'éthique, médecin en soins palliatifs au pôle autonomie handicap du CHU de Besançon, directeur de l'Institut des vulnérabilités liées à la santé et co-initiateur de la stratégie décennale qui a inspiré le chapitre du projet de loi consacré à ses soins. Je lui poserai les mêmes questions que je vous ai posées. Merci infiniment.
Get it.